Ai-je confiance en moi? Mais vous vous connaissez. Et si vous ne vous connaissez pas tout à fait, eh bien demandez à ceux qui vous connaissent, à ceux qui vous aiment, demandez à Dieu de mieux vous connaître. Faites un effort de volonté aidée. Et d'ailleurs, dans un couple, c'est une des premières missions de l'époux ou de l'épouse, c'est donner confiance à l'autre. C'est pas le regarder se dépatouiller. Quels sont les domaines où j'ai le moins confiance en moi? Quel effet le mariage aura-t-il sur ces problèmes? Eh bien, le témoin privilégié. C'est sûr qu'à la retraite, on dit toujours, restez pas tout d'un coup, toute la journée ensemble. Parce que pendant des années, pendant 7-8 heures, vous ne vous voyez pas dans la journée. Et du jour au lendemain, vous allez être tout le temps ensemble. Il y a des couples qui travaillent ensemble, hein, donc eux... Mais, vous voyez, c'est... Comment dire... le mariage va nous permettre de nous connaître. Mais pas trop non plus, vous voyez, pour mieux nous tolérer, tolérer nos défauts avec le temps, pas être tout le temps l'un sur l'autre. Enfin, avec la passion amoureuse, en règle générale, vous pouvez être ensemble tout le temps et jamais trouver à redire. Mais avec le temps, c'est un peu plus compliqué. Comment est-ce que je me montre aux autres habituellement? Famille, amis, travail. Ah, alors là, si on commence à parler de la famille, je crois qu'on va en parler un peu plus. Ai-je de vrais amis? Les vrais amis, ce sont ceux qui, à un moment donné, vous disent la vérité. Dans ma vie de célibataire, y a-t-il certains domaines dont il me semble important de me séparer pour la vie, avec la promesse de ne jamais... Enfin, de vieillir ensemble. Des parents et ma famille ont-ils eu une influence sur moi? Ben oui, en général. Mais laquelle? Alors, si vous faites de la psychanalyse, en général, vous allez devenir fou. Vous allez tourner vers votre passé, vous allez trouver toujours un truc. Et comme disait une psychanalyste, vous ne pourrez guérir que si vous haïssez votre mère. C'était une sorcière, hein, ne vous inquiétez pas. Mais bon, ça va, quoi. Même si on vous a fait du mal dans votre enfance, vous voyez, il faut l'affronter. Mais il n'y a de paix que dans le pardon, même si c'est un pardon prudent, qui fait que vous prenez, malgré tout, des distances tout en ayant pardonné. Et, le fait d'être prudent et de mettre de la distance n'exclut pas le pardon. Et la bienveillance, la recommandation à Dieu du salut éternel de la personne qui vous a fait souffrir. Quelle relation ai-je avec ma mère qui m'a étouffé ou au contraire qui m'a épanoui? Et j'ai une mère, non, tout va très bien avec ma mère. Avec mon père, durant ma jeunesse, quel rôle ont-ils joué? Qu'est-ce qui me paraît le plus essentiel à garder, à développer? Y a-t-il des modèles de couple que j'aimerais imiter? Parents de mon fiancé, des couples que vous voyez. Alors si vous terminez dans la jalousie, ils sont plus heureux que nous, et tout ça, t'es un pauvre type et tout. Non, c'était pas ça le but de la question. Et en quoi, hein? En quoi j'aimerais les imiter? Suis-je à l'aise dans la famille de mon fiancé? Ouais. Ouais, la question vraiment parfois à ne pas poser. Mais d'autres fois, c'est merveilleux. D'autres fois, ouais. De toute façon, si vous étiez dans le sud-sud, ouais, moi, mais je l'ai pas vraiment vécu. Mais ma mère l'a vécu quand même. Elle a épousé un Corse. Et il y avait, c'était dans une famille relativement de petite bourgeoisie modeste. Mon père et ma mère ont travaillé, tout ça. Mais en soi, ma mère, qui venait d'une famille de moyenne bourgeoisie, s'est retrouvée dans l'appartement avec les parents de mon père. Parce qu'un Corse n'abandonne jamais son père et sa mère. Si on est sur le continent, si on est en ville, si on est dans des appartements, eh bien, on ne peut pas avoir la maison à côté, on ne peut pas. Donc, ils sont dans l'appartement. Donc, ma mère a vécu toujours avec ses beaux-parents. Oui. Comme dans le profond midi, hein, je peux vous assurer. Alors, la chance, mes grands-parents paternels étaient des saintes personnes. Donc, des personnes très douces et très gentilles. Mais imaginez un peu. Vous avez des familles de grande bourgeoisie qui ont des immeubles entiers. Donc ils ont le premier étage, les beaux-parents sont au deuxième étage. Voilà. Ben, quand on est propriétaire de l'ensemble de l'immeuble. Vous voyez. Donc là, mine de rien, c'est peut-être à un étage, mais bon. Suis-je à l'aise dans la famille? Ai-je le sentiment qu'il me faut épouser une famille entière? Ce qui n'est pas vrai. Est-ce que je souhaite couper tous les liens entre mon fiancé et sa famille? Je vous le déconseille. Qu'est-ce qui me fait souffrir dans la famille de mon fiancé? Est-ce que ça peut se surmonter ou pas, hein? Suis-je à l'aise avec les amis de mon fiancé? Moi, j'ai entendu quand même plusieurs fois des coupures, hein, avec les amis. Mais bon, c'est vrai aussi qu'on mûrit. Et que parfois on a les amis d'un certain âge. Donc ça ne veut pas dire que c'est la fiancée ou le fiancé qui ont fait couper avec les amis. C'est pas nécessaire. Moi j'ai gardé deux amis de mon enfance. Et comment dire, vraiment. Donc ça veut dire qu'ils avaient on avait une estime personnelle et mutuelle qui n'était pas liée à un temps de notre vie. C'est des personnes que je vois tous les mois. Ouais. Quels sont les points qui m'empêchent d'être authentique, d'être vrai? Suis-je prêt à vraiment respecter le jardin secret de mon fiancé? Est-ce que j'essaie de promouvoir la liberté de mon fiancé? We shall overcome. De découvrir et d'épanouir ses talents. Eh oui. Musicienne, peintre. Ai-je pris conscience que je dois aider mon fiancé dans sa recherche d'une vie intérieure et spirituelle tout au long de sa vie? Ça, il faut, à l'occasion de votre mariage religieux, vous poser la question d'une vie de prière. Et nous verrons plus tard, hein, je vous dirai, il faut que vous alliez à la messe tous les dimanches, mais ça, on verra plus tard. Dans notre couple, comment l'amour s'exprime-t-il le plus? Sentiments, intentions, paroles, gestes. Suis-je prêt à renoncer à tel ou tel désir personnel pour le bien de mon conjoint ou de notre couple? Vie professionnelle, enfants, loisirs, vacances. C'est très étrange, hein, les époux qui partent pas en vacances ensemble. Hein. Que signifie pour nous de nous engager à vie? Avons-nous déjà eu l'occasion de nous engager? Sur quoi va reposer la force et le soutien de notre union? Alors ça, c'est la question la plus étrange que j'ai. C'est quand même... C'est vraiment du novlangue, hein. C'est du pipotron, ça. Excusez-moi, sur quoi va reposer la force et le soutien de notre union? Ben, sur plusieurs choses, enfin, c'est très 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 varié. Mais poser une question comme ça, c'est au bout de 10 ans, hein, qu'on peut répondre à cette question. Mais elle est belle en soi, vous voyez, c'est vraiment... quel est votre vécu? Une question pareille, c'est... Quel moyen humain et divin voulons-nous choisir? Ça, c'est plus concret. Sur quoi repose la vérité de notre amour? Ça aussi, c'est... parce que c'était moi, parce que c'était lui. Communication. Est-ce que je sais écouter? Ah, ça, par contre, là, c'est dans le concret. Comment se manifeste cette écoute dans mon attitude? Et mon fiancé, et ma fiancée. Est-ce que l'un de nous parle trop, ou au contraire, reste trop silencieux? Donc imaginez, moi, c'est simple. J'ai une belle-mère, c'est l'Église. Elle n'a rien à dire, ou machin. Donc je peux parler tant que je veux, aucun problème. Ma fiancée ne dit rien. Suis-je capable d'exprimer à mon fiancé, à ma fiancée, mes sentiments? Ben moi, je me confesse. Peur, tendresse, colère. Est-ce qu'il y a des questions que j'ai peur de poser à ma fiancée? Quand je rencontre un obstacle dans la communication avec mon fiancé, quelle est ma réaction? Quels sont les sujets que je n'aborde pas volontairement avec mon fiancé ou ma fiancée et pourquoi? Alors, quand vous regarderez tranquillement ensemble ces questions, si ça doit provoquer votre séparation, arrêtez. Hein. C'est là qu'on voit l'influence de la psychanalyse. Quelle a été la dernière démarche de mon fiancé, de ma fiancée, qui m'a aidé à me confier à elle, à lui? Y a-t-il des choses que mon fiancé est en droit de connaître sur moi pour être vrai dans ma relation? Si vous avez fait de la prison, vous devez le dire. Ah oui, mais là je rigole pas. Ça rend le mariage invalide. Parce que c'est une chose grave de notre être, de notre personne. Donc si on le cache, c'est qu'on n'a pas vraiment l'intention de se donner. Mais si vous avez, escroqué quelqu'un, Mais si vous êtes un escroc dans l'âme, il faut vous en convertir. Est-ce que vous avez fait un acte grave sur une autre personne? Vous n'êtes pas obligé de le dire si vous vous êtes converti. Et la conversion, justement, c'est de détester le mal qu'on a fait, de le regretter en vérité. Dans la foi chrétienne, il y a une occasion extraordinaire de regretter ses fautes, qui est la confession. Enfin, si, par exemple, une femme ou un homme a poussé, ou une femme a avorté. Est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas? C'est quand même important. Mais la confession est la meilleure guérison pour un acte grave. Et l'Église nous demande de nous confesser des actes aussi graves qu'un avortement, qui peut nous poursuivre. Parce qu'on a beau vous dire que c'est un amas de matière, comme l'Église vous dit que c'est un être vivant, vous allez toujours vous dire, non. Et entre France Info et l'Église catholique, qui croire? En tout cas, voyez-vous, lorsqu'on a, si vous voulez, même sans prêtre, à travers les siècles, vous avez des personnes qui sont allées voir des sages, des personnes pleines d'intelligence et de sagesse dans leur village et autres, pour leur dire, est-ce que je dis ça? Voilà. Est-ce que l'autre va pouvoir la force de le porter? De nos jours, on vous dirait, dites tout. Et pour vous guérir vous-même, pour le machin, oui. En tout cas, le bon Dieu, lui, nous a donné les prêtres pour nous soulager et pour nous conseiller. Moi, je me confesse. Le regard sur l'autre. J'ai un regard positif sur mon fiancé dans toutes les situations. Ça, c'est l'aveuglement. Lorsque je l'écoute, est-ce que je cherche vraiment à comprendre ce qu'il a voulu dire? Ça, c'est très important, par contre. C'est la vie. On doit faire effort de comprendre ce que l'autre veut dire. Et les incompréhensions, c'est quand même incroyable. Vous avez des gens qui ne crèvent pas les abcès. On appelle le devoir de s'asseoir. Une fois par mois, on dit « Alors, t'as quelque chose à me reprocher ? Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire ? On ne s'est pas compris ? » Ben non, tout va bien. Hein ? Voilà. Bon, ben voilà. Suis-je capable de percevoir ce qu'il me dit de vrai, même quand cela m'est désagréable ? Suis-je capable de me remettre en question ? De considérer que j'ai tort ? Oh, qu'est-ce que c'est important de se rendre compte qu'on peut avoir, qu'on a pu avoir tort. Si vous n'avez pas eu tort, ben tant mieux. Mais franchement, reconnaître ses torts, c'est une des choses les plus grandes de la créature. Elle reconnaît ses limites. On souhaiterait ne jamais avoir tort. C'est possible, il y a des gens qui sont tellement clairs dans leurs intentions et tout ça. Est-ce que j'estime bien connaître l'autre dans sa différence ? La différence, si elle est pécamineuse, si elle est mauvaise, on n'a pas à la tolérer. On a à la corriger, à la supporter, à la tolérer, en effet, mais pas au point si c'est un petit défaut que la personne aura parce que c'est son tempérament jusqu'à sa mort et à son dernier souffle, là, en effet, hein, vous mettez un mouchoir dessus et vous attendez. Hein. Et si c'est quelque chose de plus embêtant, il faut pas hésiter à le dire. Quels sont ses centres d'intérêt ? Ça, c'est le caractère, le tempérament m'incommode-t-il ? Qu'en est-il de l'usage qu'il fait du tabac ? Pourquoi il ? Non. De l'alcool ? Son attitude face au jeu ? Et non, ça rigole pas. De sa façon de dépenser de l'argent, là, ça commence à devenir plus universel. De son humeur, de son sens de l'humour. Alors moi, qui en fais trop, un jour, j'étais dans une prêtre dans une pension de 200 élèves. Je fais un trait d'humour plus ou moins bien fait. Et il y en a un qui a dit, il a dit dans les rangs, hein, mais aux autres, quelque chose. Et ça les a fait rire. Alors moi, j'ai grand moment d'humilité. Je dis, venez, il m'a dit, tout ça. Oh, mais non, j'ose pas vous le dire. Ben, eh bien, c'est comme les parachutes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, quand on n'a pas d'humour, on fait comme les parachutes, on s'écrase. Suis-je mal à l'aise face au comportement de mon fiancé en société, avec mes amis, à la maison, avec ses propres amis ou sa famille? Mon fiancé dépend-il trop de ses parents? Est-il en général satisfait de ce que la vie lui apporte? Qu'est-ce que j'apprécie le plus en lui? Ça, on recommence à rentrer dans Psychologie Magazine. Que m'apporte-t-il de plus grand? Équilibre, vision de la vie, relation aux autres. Qu'est-ce qui me fait souffrir en lui? Là, c'est pour vous pousser à vous creuser la tête pour arrêter de l'aimer. Voilà. C'est les professionnels du divorce qui font des bouquins entiers là-dessus. Ne les lisez pas. La vie est plus simple que ce qu'ils écrivent, parce qu'eux, il faut qu'ils vendent, il faut bien vivre. Qu'est-ce qu'il m'est difficile que met-il, parce que voyez-vous, le pardon et l'oubli est quelque chose de vrai. Hein. On ne peut pas tout relever dans la vie, de tous les défauts, de tout ce qui s'est pas bien passé dans une journée. On ne peut pas tout relever. C'est terrible. Non. On laisse aller, on pardonne, on est. Et en même temps, on dit ce qu'il y a un moment à dire. Enfin, voilà. suis-je prêt à accepter qu'il puisse évoluer ou changer? Ben, oui, bien sûr. Enfin, bon. Pardon. Avons-nous déjà vécu des conflits? Avons-nous eu tendance à les fuir, à nous affronter, à nous expliquer? Avons-nous eu l'occasion de nous dire réciproquement nos blessures dues à la réaction de l'autre? Avons-nous déjà pris le temps de nous pardonner, de prier pour demander pardon à Dieu? De nos jours, c'est pas fréquent de prier ensemble. Enfin, si vous voulez être un peu surnaturel sans être nécessairement évangélique ou charismatique, vous pouvez parfois dire un Notre Père ou ensemble, ou un Je vous salue Marie ensemble. Ou visiter une église ensemble et vous recueillir. Oui. Et aussi reconnaître dans votre vie des moments providentiels qui ne peuvent pas être du hasard. Et les faire, et les graver dans votre mémoire. On dit, tiens, ça, c'est une aide de Dieu. Et en même temps, quand vous avez une épreuve, si un jour, vous voyez, vous perdez un enfant, je peux vous assurer que, ou vous croyez que Dieu s'est fait homme et qu'il est mort lui aussi, et qu'il est ressuscité, et qu'il y a une vie après la mort, et que votre enfant, vous le retrouverez, ou pour vous, c'est le plus grand des malheurs et la plus grande injustice, et que Dieu est impardonnable de permettre la mort. C'est pour ça que je vous ai dit, et je vous le redis, la mort est entrée dans le monde pour empêcher la haine de perdurer. C'est à cause du péché que nous sommes malades et que nous mourons. C'est à cause des pécheurs. Mais oui, mais moi je ne pêche pas, alors je devrais être immortel, et les autres devraient crever comme des chiens. Ben oui, mais d'abord vous pouvez aussi pécher comme les autres. Et nous sommes tous unis. Il faut que tout le monde participe à cette fragilité, que tout le monde se souvienne de ne pas pécher. C'est une certaine peine universelle, hein, la maladie et la mort. Mais les innocents, eux, sont récompensés de leur innocence. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est tellement vrai. Le bien est récompensé, le mal est puni. Si. Les vieilles institutrices avaient raison. Elles étaient encore imprégnées du christianisme. Les nouvelles institutrices ont dit « Oh, qu'est-ce que tu veux ? Oh, mais c'est magnifique ! Oh, il y a 50 fautes d'orthographe dans ta feuille. » Mais l'important, c'est que tu t'exprimes. Et, enfin, même un Égyptien ne comprendrait pas. Il y a un moment donné où quand vous n'apprenez pas correctement à lire et à écrire, vous n'arrivez pas non plus à vous exprimer. Donc c'est pas aimer ses élèves que de leur laisser faire tout ce qui leur passe par la tête. Oui. Ou supprimer les notes. Si. Supprimer les appréciations. Bon. Tout ça, c'est pas vrai. On a besoin qu'on nous dise ce que tu as fait est bon. Un apprenti qui fait un meuble, il a besoin que l'artisan qui a de l'expérience lui dise « Attention, ah, tu as bien fait, là c'est la courbe, et tu le vois bien toi-même. »
Oui. Quand c'est positif, c'est bien.
Ben oui.
Et c'est souvent du jugement négatif la plupart du temps.
De qui?
De les enseignants.
Si c'est pour lui, c'est pour le tirer vers le haut.
Oui, voilà, c'est pour le tirer vers le haut, mais oui. La plupart du temps, c'est pas.
C'est comme en éducation.
La plupart du temps. Ah non, une bonne institutrice ne fait pas que de faire des reproches à ses élèves. Oui. De toute façon, quand on fait que des reproches, à un moment, c'est insupportable. Donc ça, c'est à voir entre vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me revient. Bon, j'ai une petite expérience d'écouter tout le monde. L'homme, la femme, les enfants, les grands-parents, les tout ça. Enfin, à la fin, nous, on a pas mal d'angles. Hein. Mais c'est le fait de tout relever aussi qui est quelque chose de terrible. D'avoir une mémoire phénoménale et de tout relever, de reprocher des choses, même anciennes, de remettre tout ça sur le... Mon Dieu. Pas de capacité d'oubli, pas de capacité d'aller de l'avant, justement, des reproches. Quand vous commencez à faire des reproches toutes les deux minutes, là, il faut vous remettre en question. C'est pas normal. À moins que ça soit une vie absolument intolérable et tout ça, bon... Mais le reproche systématique, tout ça, non, non, non. Avons-nous déjà pris le temps de nous pardonner? De prier pour demander pardon à Dieu? En quoi m'est-il difficile de pardonner? C'est souvent de l'orgueil. On ne veut pas faire de concessions. Tout, hein, c'est... Comment je perçois le sacrement de la réconciliation? C'est le fait de prendre un inconnu, un serviteur de Dieu à témoin de ce que l'on regrette vraiment. Et bien, il y a des protestants qui nous envient ce sacrement que Luther et Calvin leur ont retiré. Parce que eux, c'est relation directe avec Dieu. Je regrette. Et là, Dieu, pour tout protestant, fait un miracle sonore. Je te pardonne. Ben non. Et donc Dieu, connaissant la nature humaine, a donné à ses serviteurs l'ordre d'écouter et de dire. Voilà. Vous avez l'humilité de raconter votre vie, de ce qui vous pèse. Dieu vous pardonne. Soyez certains que Dieu vous pardonne. Et on l'entend. Vous voyez, c'est de la psychologie à deux balles? Non, 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 ça fait... Ça fait 2000 ans.
Ça suffit peut-être pas.
Pas, bien sûr. Il y a des guérisons plus longues. Enfin, vous voyez, une femme qui a avorté et qui, contrairement à ce que dit France Info, commence à se dire, tiens, quand même, s'il était allé jusqu'au bout, il aurait eu mes yeux, il aurait eu ceci, cela, ça tourne dans votre tête. Il y a plusieurs Paul II qui n'arrêtent pas de vous dire « Ah, ben tiens, c'est pas bien, c'est pas bien, on doit respecter la vie et tout ça, et vous êtes là. » Quand vous êtes bien complexé comme un... Ben, à un moment donné, Jean-Paul II et Dieu vous disent « Mais tu peux demander pardon et tu peux espérer revoir cet enfant, tu peux demander, comment dire, à dépasser toutes les épreuves de cette vie terrestre, tu peux être tourné vers l'avenir. » Et voyez-vous, ça nous convainc pas. Oh, c'est un amas de matière, parce que l'embryon du panda, s'il y en a un qui le tue dans le ventre du panda, de la femelle, eh ben il va en tôle. Celui qui provoque un avortement chez une maman panda dans un zoo de Chine. On le pulvérise sur la place Tiananmen, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'était. Oui, mais voilà, c'est la vie. Avec quelle régularité j'aimerais vivre la confession? Alors là, ça commence à devenir trop sérieux. Donc, on s'arrête là. Et je vous demande. Vous voyez, dans ces... vous n'allez pas vous marier tout de suite. Donc, ce qui vous est dit là, c'est pour que vous réfléchissiez sur le long terme. Quand je vous ai conseillé de voir le Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, c'est pour que vous remettiez dans votre mémoire, et plus facilement que de lire dans les évangiles, qui ça demande toujours un petit effort. Si vous lisez l'évangile de Saint Marc, il est court, et vous avez la vie du Christ. Et les implications par rapport à l'Ancien Testament, et par rapport à ce qui se passe actuellement entre musulmans et juifs. Vous comprenez les problèmes religieux lorsque vous lisez les évangiles. Et vous appréciez que l'évangile tourne vers l'amour, mais un amour exigeant. La relation religieuse. Parce qu'on aura beau faire des repas, des petits fours, des dialogues merveilleux avec les musulmans et les juifs, avec les hindous et les bouddhistes, à un moment donné, il y a des choix fondamentaux. Hein. Et les bouddhistes, birmans, hein, si les musulmans les embêtent, ça rigole pas. Hein.
Là, il y a un problème.
Ah oui, non mais le bouddhisme n'est pas du tout pacifique, hein, c'est uniquement pour... Kung Fu Panda et 7 ans au Tibet. Hein. Allez là-bas, hein, allez là-bas et voyez un peu comment ça rigole pas du tout le bouddhisme. Et le bouddhisme tibétain, encore moins. Et l'islam, vous finissez par connaître quand même les raideurs. Parce que moi j'ai lu le Coran en entier, le Coran est très dur. Le pardon dans le Coran. Les sourates qui commencent par Dieu miséricordieux, ben oui, mais quand vous lisez derrière toutes les condamnations et toutes les malédictions qu'il y a, vous dites, eh ben dis donc, sa miséricorde, elle est méchamment conditionnée. Hein. Et c'est les pierres vous diront où sont vos ennemis pour que vous alliez les tuer. C'est dur.
C'est une jeune religion aussi.
Comment ?
C'est peut-être pour ça, c'est une jeune religion.
Ah non, c'est une hérésie judéo-chrétienne.
Parce que moi j'avais lu en des choses à la fois, elle était vraiment jeune, elle était dans une période de, justement de transition.
Ben, une religion, où elle est vraie, où elle est fausse, même vieille, même jeune. Parce que vous aviez une vieille religion qu'on a abandonnée, c'est la religion Inca. Elle était vieille, hein. Mais dis donc, hein.
Elle rigole encore moins.
Mais... Ben, oui. Vous avez les druides, ça égorge des jeunes vierges de 12 ans au solstice. Hein. C'est pas Astérix et Obélix, hein, les vrais druides. Non, les vieilles religions sont souvent cruelles. Tandis que la vraie religion de Dieu qui a parlé et qui a fait des actes créateurs miraculeux, elle est homogène. C'est-à-dire que quand Jésus arrête la sévérité de l'Ancien Testament et dit « c'est fini parce que ce n'est plus utile ». Mais c'était utile pour les séparer des vieilles religions moyen-orientales qui jetaient leurs bébés dans des statues incandescentes.
Mais du coup, peut-être que l'islam a besoin aussi de ce Nouveau Testament, on peut dire.
Tout à fait. Mais alors ça veut dire que justement, 600 ans après Jésus-Christ, ça a été une chute, et qu'il faut qu'il retrouve le chemin de Jésus. D'ailleurs, Jésus est considéré comme un prophète, mais pas comme Dieu crucifié. Et puis Marie est considérée comme la mère vierge du prophète Jésus. Il leur manque la crucifixion qu'ils nient, hein, un ange s'est substitué à Jésus, et du coup il leur manque aussi la présence de Dieu, l'Eucharistie, la messe. Il leur manque cet agneau de Dieu qui est rendu présent par le pain et le vin transsubstantié. Dieu est loin. Si vous voulez, Dieu est loin. Quand un musulman se convertit au christianisme, ils disent tous la même chose. Je peux parler à Dieu. Il dit, mais vous aviez des prières 5 fois par jour et tout ça. Oui, mais c'est le Tout-Puissant. Mais si Dieu est tout, s'est fait homme, si Jésus est Dieu, si je peux embrasser Jésus, recevoir Jésus dans l'Eucharistie, quand un musulman se convertit, plus jamais vous pourrez lui arracher l'Eucharistie. Pour lui, c'est toucher Dieu, recevoir Dieu, c'est impossible. Puisque c'est même pas possible après la mort. Dans le paradis d'Allah, on voit pas Dieu. On est entre nous, dans un paradis de délices. Donc on voit pas Dieu. On vit pas avec Dieu. Donc c'est quand même une grande régression quand même. Vous voyez. Mais comme il n'y a plus de dialogue interreligieux authentique, là je suis trop sévère. Donc si je parlais avec les musulmans, j'y mettrais les formes un peu plus. Oui. Mais à un moment donné, il faut aussi dire les choses avec franchise. aller en Arabie Saoudite. C'est quand même un des pays musulmans les plus observants de l'islam. C'est épouvantable. Donc, les pays musulmans qui sont plus agréables sont ceux qui sont le plus loin du texte. C'est quand même embêtant pour une religion. Oui. Mais ça, c'est des choses dont on ne peut pas parler. Mais vous, vous n'êtes pas dans un mariage musulman, justement. Il n'y a pas de répudiation. Et il n'y a pas de ces coutumes patriarcales ou autres. Le christianisme a traversé les siècles et s'est débarrassé régulièrement d'oripeaux, coutumiers. La peine de mort, la condamnation à la roue, hein, vous étiez attaché sur une roue, et puis où on vous brisait les membres et on vous arrachait les viscères, on le fait plus. Hein. Mais les chrétiens l'ont fait. Celui qui a tué Henri IV, il a été roué. Pas roué de coups, roué de coups, on dit, hein, roué de coups. Et lui, il a été roué. Hein. Il était régicide. Ravaillac, on l'a mis sur une roue, on lui a pété tous les os, et puis on lui a arraché le ventre. Voilà. Ça calmait les autres. Hein. C'est des... Tiens, la prochaine fois que j'ai envie de tuer le roi, ben, j'irai à la chasse. Voilà. Mais c'est fou de voir justement la manière dont il a fallu des siècles pour nous adoucir.
Oui, c'est ça. Peut-être qu'ils ont besoin de ça aussi.
Oui, mais ils n'ont pas les moyens. Le Coran n'est pas un... Mais ça, on ne peut plus... Benoît XVI a osé une fois. Il a dit, le Coran est violent. Mahomet était un homme violent. Ben oui, mais il faut voir... Il a fait la guerre toute sa vie, cet homme. Et sa dernière femme, elle avait 6 ans quand il s'est marié. Il avait une 50aine d'années. Et il l'a mis dans son lit, elle en avait 9. Il a attendu qu'elle soit pubère. Oui. Et imaginez que vous disiez ça aux 20h actuellement. Il y aurait un malaise. Pourtant, c'est historique. Et eux-mêmes le reconnaissent totalement. Au point que l'Ayatollah Khomeini en Iran considérait qu'on pouvait mettre l'âge nubile à 9 ans. Et en Afghanistan, actuellement, on se marie à 10-12 ans. Ça, systématiquement, presque, hein, dans les villages les plus reculés. Oui. Mais ça, voyez-vous, nous-mêmes, nous avons à bien comprendre le poids de l'Évangile dans l'histoire humaine. Et on ne peut pas faire d'anachronisme. On est en 2017, donc maintenant, il faut prendre le christianisme tel que on le vit maintenant. Voilà. Avez-vous des questions? Lyon, il va falloir que vous en ayez quand même quelques-unes.